Vous êtes sur RTL. RTL Matin
avec Yves Calvi.
RTL, il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari.
Bonjour Jean-Baptiste Djebbari.
Bonjour à vous deux.
Est-ce que les trains vont circuler samedi, dimanche, jour de grand départ, premier week-end même de départ en vacances, malgré les appels à la grève?
Alors, les trains vont circuler. Ce week-end, nous attendons 1 million de voyageurs. Comme vous savez, les préavis de grève ont été levés hier, notamment sur les Ouigo. Et donc, tous les trains seront disponibles à compter d'aujourd'hui d'ailleurs, puisque les grands départs débute ce matin.
Donc maintenant, quand il y a une grève, on ne la voit plus.
Je vois à qui vous faites référence et je n'ai
Nicolas
jamais
Sarkozy.
Employé ce terme.
Mais il y avait des revendications, protestations contre les conditions de travail dégradées, disaient les syndicats, augmentation de salaire, demande de gratification pour leur implication pendant la période Covid. Vous avez répondu à tout ça?
Moi, j'ai reçu le patron de la SNCF avant-hier.
Jean-Pierre Farandou.
Oui, Jean-Pierre Farandou. Nous voyons les syndicats la semaine prochaine. Les engagements du gouvernement sur les grands sujets d'ouverture à la concurrence, des missions techniques dont je n'entre pas dans le détail ici, ont été tenus. Tous les engagements ont été tenus et je m'en suis tenu pour ma part et au nom du gouvernement à ça. Après, il y a le dialogue social dans l'entreprise mené par Jean-Pierre Farandou, mais je le redis, les garanties ont été très largement données ces derniers mois. Nous investissons 75 milliards d'euros dans le système ferroviaire dans les 10 ans à venir. Donc je crois que la démonstration de l'attachement du gouvernement et des Français par leur truchement à la SNCF et au système ferroviaire n'est plus à démontrer.
Vous avez mis plus de trains que d'habitude ?
On a mis les trains qu'il fallait en fonction des réservations, mais on est sensiblement au niveau de 2019. Donc de ce point de vue-là, et pour l'été, on a quasiment retrouvé sur la France le trafic domestique, le niveau de 2019.
Mais il y aura une forte affluence dans les gares.
Il y aura une forte affluence dans les gares parisiennes essentiellement au départ, et une forte affluence sur les grands axes qu'on connaît assez bien, l'axe atlantique, évidemment le trafic vers le sud-est. Et les grandes villes, Bordeaux, Lyon, Marseille, comme à l'accoutumée.
On se disait qu'avec le variant Delta, peut-être les gens allaient davantage voyager en France plutôt qu'aller à l'étranger. C'est le cas.
C'est déjà, en fait, c'est le cas depuis l'an passé.
Oui.
Les Français ont voyagé en France. Les réservations dont nous commençons à avoir une bonne idée sont essentiellement des réservations pour la France. C'est vrai d'ailleurs aussi pour l'aérien, avec beaucoup de déplacements français et européens. Et donc je pense que cette année encore, les Français préféreront le territoire national.
Un mot sur la grève aussi à Aéroport de Paris. Son PDG Augustin de Romanet était à votre place mardi. Alors, il évoquait de légers retards tout ce week-end. Léger retard, ça veut dire quoi ?
Hier, nous avons eu en moyenne entre 15 et 30 minutes de retard par vol. Donc c'est quand même significatif et l'information a été faite aux voyageurs. Pour resituer le débat, vous savez qu'ADP a connu, comme tous les opérateurs aéroportuaires, une crise d'une intensité absolument incroyable. L'entreprise a réagi et a fortement réagi en lien avec les syndicats. Ils ont signé le 9 décembre dernier un accord de performance collective, une rupture conventionnelle collective qui s'applique, qui a été d'ailleurs signée à l'unanimité. Et aujourd'hui, il y a encore des discussions entre la direction et les syndicats pour pouvoir sortir de cette grève. Mais je le dis, bon, nous avons toute confiance en la direction d'Aéroports de Paris et en son PDG Augustin de Romanet. Et le dialogue social continue.
Mais il y a un autre préavis de grève qui est pour vendredi prochain. Ça, c'est l'UNSA ADP.
Oui, qui l'UNSA ADP, qui effectivement, jusqu'au 5 juillet.
Pénaliser les voyageurs ?
Écoutez, moi, j'ai posé le cadre. Il fallait qu'ADP réagisse. Il n'y aura pas de départ contraint. ADP, en moyenne, quand on compare avec les autres aéroports européens, va supprimer 2 fois moins d'emplois. Il n'y aura pas de départ contraint.
Et des licenciements, il y en aura ?
Pas de licenciements contraints. Il y a des plans de départ volontaires. Il y a de la modération salariale. C'est sur ces sujets-là que vont porter les discussions entre l'entreprise et les syndicats prochainement. Mais je crois qu'il y a eu là un travail de responsabilité collective entre les syndicats et la direction depuis de nombreux mois. Je compte que ce travail poursuive.
Hier est entré en vigueur le pass sanitaire européen. Est-ce que vous allez renforcer les contrôles ? Et je vois le rebond épidémique au Royaume-Uni, en Russie, on voit ce qui se passe au Portugal. Est-ce que là, il faut être plus vigilant avec
d'abord,
ces pays-là ?
Les contrôles, nous en avons mis depuis mars dernier, depuis mars 2020.
Oui, mais c'est aléatoire. Il y a des gens qui nous racontent qu'ils ne sont jamais contrôlés.
C'est pas tout à fait aléatoire. Nous avons différents types de listes. Les listes vertes, où effectivement, les contrôles sont relativement modestes parce que simplement ces pays-là n'ont pas de circulation particulièrement active du virus. Les listes oranges, sur lesquelles vous avez des motifs impérieux. Et puis la liste rouge, qui est importante, sur laquelle vous avez des restrictions très fortes. Nous avons, depuis mars 2020, contrôlé l'ensemble des compagnies aériennes. Nous avons par exemple convoqué 35 compagnies aériennes, mis 16 mise en demeure. Et puis nous avons suspendu, par exemple, il y a quelques mois, Ethiopian Airlines pendant 3 jours de vol parce qu'elle ne respectait pas ses engagements.
Suspendu, ça veut dire quoi ?
Suspendre les vols, oui. Ça veut dire interdire les vols, en l'occurrence à destination de la France. Donc nous sommes extrêmement vigilants. Nous regardons aussi tout ce qui est correspondance auto-organisée quand vous essayez de prendre des billets séparés pour venir en France en détournant les règles. Donc nous sommes vraiment mobilisés sur ces sujets en lien avec le ministre de l'Intérieur pour l'aspect contrôle aux frontières.
Voilà, et il y aura assez de monde justement pour les contrôles.
Il y aura assez de monde. Il y a du monde depuis le début, à la fois pour vérifier les documents, les tests, les vaccins et évidemment assurer le contrôle aux frontières.
J'en profite, puisqu'on parle du Covid, Jean-Baptiste Djebari, est-ce qu'on doit rendre obligatoire la vaccination, notamment des soignants, puisque ça c'est une question qui agite votre gouvernement ?
J'ai écouté le député et ancien collègue Thomas Meunier à votre antenne il y a quelques instants. Je crois qu'il a bien posé les termes du débat. Il y a une concertation qui est menée pour voir s'il faut effectivement poser le caractère obligatoire pour les soignants, notamment dans les EHPAD. Il y a une concertation qui va durer quelques semaines et le gouvernement après tranchera sur la base des échanges politiques qu'il aura eu.
Et à terme, tout le monde, tous les Français devraient être vaccinés.
J'en ai quand même ce matin, il y a plus de 55 millions de doses qui ont été distribuées en France, plus de 33 millions de personnes qui ont une première dose, 22 millions de personnes complètement vaccinées. Donc de ce point de vue-là, dans la population générale, la vaccination progresse bien. Le sujet, il est quand même essentiellement aujourd'hui chez les soignants et dans les EHPAD, puisque je comprends qu'il y a des différences de taux de vaccination qui sont importantes entre soignants et population des EHPAD, par exemple.
Monsieur le ministre des Transports, on a parlé du transport aérien. Cette semaine, on a appris une commande exceptionnelle de la part de la compagnie américaine United Airlines. 200 Boeing, 737 MAX, 70 Airbus, A321 Neo. Est-ce que c'est le signe que ça repart dans le transport aéronautique ?
Alors, ça repart notamment en Chine. La Chine est déjà sur le trafic régional à 110% de son niveau en 2019. Et ça repart en Amérique du Nord, avec un trafic qui est quasiment normal. Ça repart beaucoup plus faiblement en Europe, par exemple. Air France, pour les mois d'été, opérera à peu près 65% de son programme habituel. Après, les compagnies aériennes, il faut avoir en tête qu'elles ont beaucoup souffert de la crise de 2008. Elles ont en général gardé leurs anciens avions et elles profitent de cette crise-là pour à la fois renouveler les flottes et puis décarboner leurs opérations.
C'est une sorte de rattrapage, quoi.
C'est une sorte de gros rattrapage.
Alors, il y a un secteur aussi qui souffre beaucoup et qui est en pleine mutation, c'est celui de l'automobile, avec une grande accélération de la voiture électrique. Alors, j'imagine que vous avez dû voir passer le rapport de Laurent Berger de la CFDT hier, et de Nicolas Hulot hier, qui montre qu'on peut faire la transition écologique et sauvegarder les emplois. La voiture électrique, on accélère vraiment ?
On ne s'en rend pas encore vraiment compte, mais c'est une accélération énorme.
Mais les bornes de recharge, on les a ?
Et pour une bonne raison. Je vais répondre à tout ça. Mais il y a une grosse accélération. Aujourd'hui, 10% des véhicules vendus sont électriques, purs électriques. Et on estime qu'à horizon 2030, c'est plus de 50% des véhicules qui seront purs électriques. Renault dit 90% en 2030. Mmh. Et Stellantis, donc Peugeot, dit 70% en pur électrique. Donc, grosse accélération. Et il faut avoir en tête que les transports, c'est 30% des émissions. Activité humaine, et les véhicules individuels, c'est 50% des émissions de transport. Donc c'est tout à fait fondamental, la transformation qu'on peut faire avec les véhicules électriques. Les bornes, nous avons aujourd'hui 610 000 bornes, essentiellement chez les particuliers et dans les entreprises, et nous avons un plan pour couvrir ce qu'on appelle les grands itinéraires de 100 000 bornes d'ici à fin 2022, et ce plan, il se déroule normalement, donc nous sommes vraiment là au bon rendez-vous.
Mais ça coûte cher encore de s'acheter une voiture électrique.
Alors ça coûte cher, mais les dispositifs sont inédits. Hein. Entre bonus électrique, prime à la conversion, aide des collectivités, pour une voiture dans le Grand Paris, vous pouvez bénéficier en tout cumulé de 19 000 euros de prime. Pour des véhicules d'entrée de gamme, autour de 25 000 euros.
Puis ouais, par ailleurs, non, vous allez nous la faire gratuite à la fin.
Non, mais... si ça vous intéresse, on en parle après. Mais il y a des dispositifs de microcrédit, il y a des prêts à taux zéro qui ont été par exemple ajoutés par les sénateurs. Donc tout ça progresse beaucoup.
Tout le monde parle d'écologie, hein. Aujourd'hui, je parlais de Nicolas Hulot et de Laurent Berger, et ça se bouscule au portillon, on l'a vu chez les écolos, pour participer à la présidentielle. Jean-Baptiste Djebari, je voulais vous poser une question sur les régionales et les départementales. Ce qui a surtout pesé, c'est l'abstention. Selon notre sondage BVA Orange, le vote à distance est plébiscité par 76% des personnes interrogées, par courrier ou par Internet. Est-ce que ça, c'est la solution ? Pour éviter un tel taux d'abstention ?
En tout cas, c'est certainement une des voies à explorer. Aujourd'hui, vous avez des pays comme l'Allemagne, comme la Suisse, qui ont recours au vote par procuration, au vote par correspondance, au vote électronique. Moi, je ne vais pas me renier. En 2013, j'avais porté un projet sur le vote électronique, notamment à destination des syndicats et de la démocratie publique, globale. Donc, je suis tout à fait favorable à ce que nous étudions ces sujets-là, même si ce n'est pas du tout mon périmètre ministériel. Mais je crois assez fortement, effectivement, que c'est nouvelle forme d'accès à la démocratie seront de nature à faire notamment revenir les jeunes, dont on voit qu'aujourd'hui ils ont beaucoup, beaucoup décroché, n'ont pas tant du débat politique, mais de l'action démocratique d'aller voter.
Mais le vote électronique, c'est quoi? C'est la machine à voter? C'est ce projet-là ou c'est par Internet?
Il y a effectivement aussi des formes mobiles. Le sujet, c'est un peu la sécurité des données. Et le deuxième sujet, en général, qu'on évoque, c'est la contrainte. La contrainte possible quand vous votez autre part que dans l'isoloir. Mais tous ces sujets, à mon sens, ils se résolvent. Et de toute façon, quand on vote, on est aussi le fruit de son environnement, des discussions. Donc...
Mais qu'est-ce qui fait qu'en 2013, votre projet n'est pas allé plus loin?
Il était trop avant-gardiste, Madame Ventura, je ne sais pas. Non, mais peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, les sujets de cybersécurité n'étaient pas encore tout à fait... En tout cas, les progrès n'étaient pas tout à fait encore au niveau que nous connaissons aujourd'hui, mais les progrès sont immenses sur le sujet. Et donc, je pense que c'est une voie qui... technologiquement, ne pose pas...
Pour la prochaine présidentielle, c'est envisageable?
Non, je crois qu'on est vraiment beaucoup trop court, là, en termes de délai. Mais pour la suite, moi, je pense que c'est un bon débat et un bon sujet de société.
Merci beaucoup,
merci
Jean-Baptiste Djebbari.
Le ministre qui confirme donc le préavis de grève levé pour la SNCF sur les trains Ouigo et nous annonce 120 000 bornes électriques supplémentaires d'ici fin 2022 pour les voitures. Merci infiniment, l'intégralité.